On a économisé, en fait, sur 5 ans, là, c'est 45 millions de dollars qu'on n'a pas dépensé, mais qu'on a investi, en fait. Le programme nous a permis de vraiment de répondre aux besoins du client.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 132e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant plus de 30 millions de dollars de publicité Facebook à l'année, J7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de J7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réels qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Sur le podcast Hypercroissance, on s'entretient beaucoup avec des entrepreneurs possédant des entreprises privées grandissant rapidement. C'est le thème du podcast et c'est également ce qui fait que vous vous joignez à nous semaine après semaine. Eh bien, aujourd'hui, on continue dans cette lignée, mais cette fois-ci avec la dirigeante de l'une des plus grandes sociétés publiques au Québec, la SAQ. Catherine Dagenais, qui préside la Société des alcools du Québec depuis juin 2018, est avec nous aujourd'hui pour nous parler de produits et services que vous utilisez à tous les jours. En effet, Madame Dagenais est derrière la création de SAQ Inspire et Cliquer, Acheter, Ramasser, des programmes forts qui ont numérisé la société québécoise. On discute également du futur qui attend la SAQ, ainsi que du plan mis en œuvre par l'équipe de Catherine pendant la COVID afin de bien gérer la demande qui fut sans précédent. Sans plus attendre, ma discussion avec Catherine Dagenais. Catherine Dagenais, vous êtes la présidente et directrice générale depuis 2018 de la Société des alcools du Québec. Au sein de l'entreprise, depuis le début des années 2000, vous avez occupé plusieurs postes à travers les années qui vous ont permis de lancer des initiatives très connues comme SAQ Inspire ou encore Cliquer, Acheter, Ramasser. Catherine Dagenais, au nom de toute l'équipe du podcast Hypercroissance, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci de l'invitation, Antoine.
Et Madame Dagenais, vous avez pu au cours des 20 dernières années voir une organisation grandement évoluer. Pourriez-vous nous ramener au début des années 2000 et nous dire à quoi ressemblait la SAQ à ce moment et également quel était votre rôle à votre arrivée?
Absolument. Alors, quand je suis arrivée en l'an 2000, ben si on recule, on était au début de la transformation du commerce de détail. Puis je parle pas que de la SAQ, mais je parle du commerce de détail en général. Le commerce avait pas vraiment beaucoup évolué depuis 20 ans en arrière. Et là, depuis 20 ans, ça s'est accéléré à vitesse grand V. Alors, la SAQ s'inscrivait là-dedans parce que, évidemment, nous sommes un commerce de détail et c'est en l'an 2000, quand je suis arrivée à la SAQ, qu'on avait déjà le projet de lancer SAQ.com, donc le premier site de vente et de conseil là, en ligne de la SAQ. C'est arrivé en l'an, peut-être un an après mon arrivée. Quand j'étais embauchée, moi, à la SAQ, j'étais directrice de secteur. Donc, j'étais responsable d'un secteur composé d'une trentaine de succursales et donc de m'assurer à ce que les opérations roulent bien dans ce secteur-là.
Puis je pense que vous avez grimpé rapidement à l'intérieur de l'organisation. On regarde un petit peu sur votre CV, on peut voir que vous avez compté pas loin de 8 postes à l'intérieur de la SAQ et certains de ces postes vous ont amené à mener des transformations assez importantes, celles du numérique entre autres. Je le disais en introduction, mais vous avez à l'intérieur de vos rôles, de vos mandats à la SAQ, amorcé des projets comme Cliquer, Acheter et Ramasser. Pouvez-vous nous partager, ou plutôt pouvez-vous partager avec notre audience aujourd'hui, quelle a été la genèse derrière ce premier gros projet que vous avez amorcé?
Effectivement, c'est un gros projet Cliquer, Acheter, Ramasser, puis j'aime ça raconter de la façon que ça s'est passé parce que, évidemment, on avait un site de vente en ligne, SAQ.com, qui existait depuis les débuts des années 2000. Mais quand on avait initié ce site-là, c'était vraiment plus un site informationnel que transactionnel. Oui, on faisait de la vente en ligne, mais c'était marginal. On n'était pas vraiment le focus, je dirais, de la SAQ à cette époque-là. Et donc, en 2014, autour de là, on avait un projet de revamper notre site SAQ.com. Et durant toutes les discussions de la révision, en fait, du site de SAQ.com, j'ai un collègue qui a apporté un des projets, des sous-projets qui étaient dans le projet de revamper le SAQ.com, qui était à propos de, ça s'appelait « Livraison en succursale ». Et le collègue en question, il avait mis le dossier un peu sur la table en disant, ben, on s'occupera pas de ça dans le projet SAQ.com, c'est opérationnel. Et moi, à ce moment-là, j'étais vice-présidente des ventes et j'ai dit, voir que c'est opérationnel. J'étais quelqu'un qui, j'ai toujours été fascinée, moi, par le commerce de détail. Donc, je voyais très bien ce qui se passait ailleurs, dans d'autres commerces. J'achetais des choses en ligne, même à cette époque-là, en 2014, là, et je commandais, puis je faisais livrer en succursale. Donc, j'avais réalisé que il y a des choses qui se passaient dans le commerce de détail et de penser que la livraison en succursale, c'était opérationnel, ben c'était une erreur parce que pour moi, c'était un changement stratégique important d'entreprise que de dire, ben peut-être que nous aussi, on devrait revoir la façon dont on traite la vente en ligne et peut-être qu'on devrait regarder la possibilité de commander en ligne et de livrer en succursale ou à domicile. Alors ça a été comme mes premières réflexions. Je connaissais rien dans ce domaine-là. Évidemment, je le connaissais comme pour l'avoir vu, expérimenté, mais comme leader professionnel, j'étais loin de. Je connaissais moins ça. Alors j'ai dit ben je vais m'en occuper, mais je me suis entourée d'une équipe. On a fait nos devoirs. Et ce qui est intéressant, c'est que plus j'ai fait mes devoirs avec mon équipe, plus on a constaté que les gens à la tête de l'entreprise dont je faisais partie étaient pas familiers avec cette transformation-là du commerce de détail qui s'appelle omnicanal. Ça, c'est un mot-là qui commençait à l'époque. Et le commerce omnicanal, c'est dans le fond ce que c'est d'être en mesure de permettre aux consommateurs d'acheter selon son mode, que ça soit en ligne, sur un cellulaire, en magasin, mais qu'ils vivent une expérience qui est similaire sans faille. Puis bon, je peux vous dire que j'avais expérimenté des choses des fois moins intéressantes dans d'autres commerces, des fois super intéressantes. Alors on a éduqué, on s'est éduqué tout le monde sur ben, c'est quoi le commerce omnicanal. Et même dans certaines directions de la SAQ, ben on se disait mais pourquoi on ferait ça? On est la SAQ. Ben en fait, si on le fait pas, on sera plus pertinent pour le client parce que le client s'en va là, le commerce s'en va là et il faut qu'on soit au devant du client. Alors c'est toutes des réflexions qu'on a eues, des discussions, des débats. Ça changeait aussi toute la notion de chaîne d'approvisionnement. Parce que là, évidemment, on faisait plus de commandes à l'unité versus une chaîne d'approvisionnement. Ils aiment ça quand c'est à la palette, à la caisse. C'est plus productif. Alors, ça changeait un peu les façons de faire. Même si c'était marginal, quand même, ça avait un gros impact sur notre mode de fonctionnement. Et moi, personnellement, c'est un projet qui me rend très fier parce que on a changé le cours de la façon dont nos clients magasinent en ligne et l'implantation de cliquer, acheter, ramasser a fait en sorte que la vente en ligne a pris son essor à la SAQ. Ça a été à ce moment-là, donc en 2015, quand on a implanté, qu'on a vraiment vu des croissances puis qu'on connaît encore des croissances encore aujourd'hui parce que ça progresse toujours.
Puis, je suis curieux de connaître un petit peu les coulisses de ce projet-là. Donc, bien entendu, vous arrivez avec cette vision-là, vous en discutez avec vos équipes. Quelle était la réception? Est-ce que certaines personnes vous disaient, bah, faut pas mettre de temps là-dessus, on a d'autres chats fouettés en magasin, on a d'autres chats fouettés en succursale? Ou, d'un autre côté, il y avait une grande ouverture au niveau de vos collègues de se dire, c'est vrai, c'est un endroit qu'on doit mettre beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Je serais curieux là, de comprendre un petit peu la dynamique à l'époque.
Ben, en fait, à l'époque, je dirais qu'il y avait un peu de tout. Il y avait des gens qui étaient très favorables au projet, Puis ce qui est important dans un projet comme ça, c'est d'avoir l'adhésion de la direction, donc de notre président, entre autres, mais de s'assurer que la direction soit bien en marche dans le projet, parce que ça touchait différents volets de la SAQ. Alors, il y a eu des réticences au niveau des coûts. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va apporter? Une réticence aussi ou une inquiétude de la part peut-être de certains employés de dire, c'est quoi notre rôle en succursale si il y a plus de ventes en ligne? Cette notion-là de qui va faire la vente, si je le dis comme ça, là, dans le commerce, et c'est le défi de tous les commerces, et on l'entend quand on l'entend moins aujourd'hui, parce que je pense que les commerces se sont ajustés, mais j'avais entendu, moi, des employés où je magasinais, qui me disaient, achetez pas en ligne parce que je perds la vente, versus d'autres employés de d'autres commerçants qui disaient, je peux vous le commander, vous le faire venir, il n'y a pas de problème. Alors, il y avait les deux. Alors, c'est sûr que nous, quand on a implanté cliquer, acheter, ramasser, on avait cette préoccupation-là. On voulait que nos employés adhèrent au changement et soient partie prenante de ce changement-là, parce que c'était un des facteurs de succès.
Bien entendu, on doit s'assurer que l'équipe suive dans cette vision-là. Et on peut dire, Madame Dagenais, qu'un projet n'attend pas l'autre, parce que en 2015, vous lancez, bien entendu avec toute votre équipe, le projet SAQ Inspire cette fois-ci, qui deviendra un énorme succès au Québec. Même approche que lors de ma précédente question. J'aimerais savoir comment ce projet a-t-il été pensé et lancé. Je serais curieux de voir, là, encore une fois, comment ça s'est déroulé à l'interne.
Mais en fait, ce projet-là a pris quelques années avant de voir le jour, parce que on voulait s'assurer de répondre aux attentes de la clientèle. Et en fait, le client nous disait, quand est-ce que vous allez avoir un programme de reconnaissance client? On l'entendait. Avez-vous une carte? Avez-vous un programme? Et là, on disait non, pas encore. Alors évidemment, on a regardé différents volets. Est-ce qu'on fait un programme à l'interne ou est-ce qu'on s'associe avec un programme existant? Et on a fait, tu sais, tous nos devoirs et on a décidé comme organisation d'aller avec notre programme maison pour s'assurer que le programme réponde aux attentes de nos clients, puis qu'on puisse bâtir sur le programme. Tu sais, on était maître de notre donnée, on l'est encore, et ça, c'est très avantageux, et ça nous permet justement de nous assurer qu'on reste pertinent pour notre client qui utilise la carte Inspire.
C'est un programme qui a fait ses preuves, là. Je veux dire, je lisais certains articles où est-ce que vous disiez que, ultimement, au-delà de l'adoption de votre clientèle à ce programme-là, ça vous a aidé à augmenter les ventes, augmenter les revenus, à donner une proposition plus en adéquation avec l'envie du consommateur. Au final, les retombées, ça a dû être assez gigantesque pour la SAQ.
En fait, les retombées, on pourrait les définir à partir des coûts marketing qu'on a économisé. En fait, on n'a pas... Le Québec est un marché, comme vous savez, captif. Là, on a un bon bassin de clients. Mais ce que ça nous a permis, c'est de connaître nos clients et plutôt que de leur offrir des promotions ou des produits qui ne les intéressaient pas, maintenant, on est capable... Par exemple, si vous achetez... si vous êtes un fan fini de scotch, on va vous faire des envois de propositions reliées au scotch. La nouveauté, c'est pas relié seulement à des promotions, mais c'est vraiment relié à vos goûts, à vos habitudes de magasinage. Donc, on est beaucoup plus ciblé dans ce qu'on vous offre. Et ça, il y a des retombées au niveau des dépenses en publicité. On a économisé, en fait, sur 5 ans, là, c'est 45 millions de dollars qu'on n'a pas dépensé, mais qu'on a investi. En fait, le programme nous a permis de vraiment de répondre aux besoins du client. Puis encore aujourd'hui, le client en veut puis en redemande. Il veut. Donc, on a encore des améliorations à apporter. Évidemment, quand on a implanté le programme La Carte Inspire, c'était pas parfait. Hein? Puis en fait, comme leader du projet, parfois dans mon équipe, il y a des gens qui voulaient absolument livrer la perfection. Puis à un moment donné, il faut comprendre que la perfection, d'une part, on sait tous que ça n'existe pas. Puis en fait, ce qui peut être parfait aujourd'hui, demain peut devenir imparfait. Donc en fait, on a implanté la carte Inspire en sachant que il faudra que ça évolue. Et c'est ça qu'on est en train de faire depuis 2016, depuis son implantation. On fait évoluer le programme.
Si vous écoutez le podcast Hypercroissance, j'assume que vous dirigez une entreprise qui désire obtenir une croissance accélérée. J'imagine également que beaucoup d'entre vous possédez une organisation qui vend en ligne et qui désire aller chercher plus de parts de marché. Eh bien, si c'est le cas, sachez que J7 Media veut vous aider. Et la première étape pour vous donner un coup de main avec votre croissance est de diagnostiquer votre situation actuelle. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez l'amener à un niveau supérieur en 2022, rendez-vous au www.j7media.com/diagnostic. Donc, je le répète, www.j7media.com/diagnostic afin d'obtenir 100% gratuitement une analyse de vos performances numériques. L'équipe qui est derrière plus de 30 millions en investissements publicitaires Facebook à l'année veut vous aider à grandir et tout se commence par un diagnostic de vos efforts actuels. Donc, je le répète, j7media.com/diagnostic afin d'obtenir une analyse 100% gratuite. De retour à l'épisode en cours. Parce que vous l'avez bien dit, c'est ça, c'est un data qui vous appartient. Donc, au lieu d'aller investir dans des sommes importantes, dans des cadeaux, disons, comme Facebook, Google ou des canaux qui ne vous appartiennent pas, ben là, c'est une donnée qui vous appartient. Donc, faire des envois courriels, faire des notifications sur un téléphone cellulaire, c'est moins dispendieux que d'investir dans des canaux publicitaires traditionnels.
Donc. C'est sûr qu'il y a des coûts associés à la gestion d'un programme comme ça. Les courriels, par exemple, on fait affaire avec une plateforme qui envoie les courriels automatiques, mais c'est ciblé, puis c'est en fonction vraiment des goûts puis des besoins de la clientèle.
Et si on regarde un petit peu à travers les années, on arrive par la suite en 2018 et monsieur Alain Brunet, qui était à l'époque PDG de la SAQ, prend alors un rôle important dans la mise en œuvre de la SQDC et vous êtes l'heureux élu pour prendre le poste de direction générale de la SAQ. Comment le processus s'est déroulé ici, Madame Dagenais? Est-ce que c'était déjà un rôle ou est-ce que vous aviez démontré de l'intérêt depuis certaines années à prendre ultimement? Est-ce que finalement, vous avez été quasiment surprise d'être choisie?
Non, on ne peut pas être surpris d'être choisie parce qu'il y a un processus de recrutement. Alors, mon prédécesseur, Alain, par choix, avait décidé de ne pas renouveler son contrat. Il a pris sa retraite, bien méritée, je pense, après 37 ans à la SAQ. Et de sorte que le conseil d'administration a enclenché un processus de recrutement avec une firme là, de chasse, comme dans les bonnes pratiques. Et le conseil a donc rencontré des candidats de l'externe, de l'interne. Et ben, j'ai été effectivement choisie, le conseil m'a choisie et a recommandé ma nomination au gouvernement du Québec parce que le conseil des ministres qui doit entériner la nomination, mais c'est basé sur sur la recommandation du conseil d'administration. Alors c'est pas un automatisme, c'est vraiment un processus qui se compare avec tout autre processus de recrutement PDG là, dans d'autres compagnies.
Mais félicitations, c'est un rôle assez exceptionnel. Puis vous aviez le CV pour, ça faisait plusieurs dizaines d'années que vous étiez à la SAQ. Donc, félicitations. Et je serais curieux du moment que, bon, bien entendu, vous prenez les rênes de l'organisation. Est-ce que vous entourez certains endroits stratégiques que vous aimeriez attaquer pour les prochaines années, pour les prochains mois? Est-ce que c'est un certain plan de match que vous aviez déjà en tête au moment où est-ce que vous avez pris les rênes de l'organisation?
Oui, certainement. En fait, il y a deux endroits. il y a deux endroits que j'avais ciblé, je dirais. J'ai eu l'opportunité de faire mon EMBA, McGill HEC. J'ai terminé là en décembre 2017. Et le papier que j'ai remis à la fin de mon EMBA, c'était sur la transformation de la chaîne d'approvisionnement dans un contexte omnicanal. Donc, ce que je vous parlais précédemment. Alors, évidemment, ce papier-là, c'est un papier d'une belle profondeur. J'ai rencontré d'autres détaillants, je me suis fait une tête et ben j'ai émis des recommandations. Puis c'est sûr que quand je suis arrivée dans mon rôle, ben j'avais ça en tête de dire ben moi je veux m'attaquer là avec l'équipe là, puis je le dis positivement là, je veux transformer la chaîne d'approvisionnement et on travaille là-dessus en ce moment. On a annoncé l'année dernière l'agrandissement de notre centre de distribution. Ça fait 20 ans qu'on n'avait pas investi dans nos infrastructures là, de la chaîne d'approvisionnement. Et ça, ce que ça va nous permettre de faire, ben, c'est de rapatrier, en fait, toutes les commandes que nous faisons en ligne avec la clientèle sur SAQ.com, mais aussi toutes les commandes que nos restaurateurs font dans un même lieu, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Alors, et en fusionnant ces activités-là ensemble, qui sont le même genre d'activités, donc cueillette à la bouteille, ben ça nous permet d'automatiser le centre, donc d'avoir encore plus d'efficience, d'offrir plus de produits, d'être plus rapide aussi, donc tu sais à terme d'acheminer les produits à la clientèle beaucoup plus rapidement que ce qu'on fait présentement. Alors ça, c'était un des volets qui m'interpellait. Et l'autre, c'est celui sur lequel on travaille aussi en ce moment, au niveau de l'environnement, tout le dossier de la consigne, qui est pas simple, c'est un changement de société, hein. C'est, la SAQ est une partie prenante avec d'autres, de ce changement-là. Et pour moi, ben, c'était une opportunité de redonner puis de changer la façon dont on traite tout ce dossier-là.
Et bon, vous avez pris les rênes en 2018 et bon, quelques années plus tard, on sait ce qui s'est déroulé. Il y a eu la pandémie de la COVID-19. D'ailleurs, on n'est pas sorti encore de ça. Là, on a l'impression que c'est la fin, mais ce n'est pas totalement terminé. Et bon, la SAQ est restée ouverte. A été vu comme un commerce essentiel et j'ai entendu certains entretiens que vous avez donnés et j'ai été capable de lire un petit peu sur le sujet. Je pense que la demande a explosé à ce moment-là. Comment ça s'est déroulé la gestion? Parce que là, bien entendu, il y a toute cette incertitude qui planait. On ne sait pas trop ce qui se déroule avec la COVID. Il y a beaucoup de demandes. Il y a des employés qui doivent rentrer pour travailler. Est-ce que vous êtes capable de nous ramener un petit peu à ce moment-là pour donner du contexte à l'audience sur comment vous avez été capable de gérer la situation?
Écoutez, je me rappelle encore du 13 mars, là, comme si c'était hier. Je revenais de vacances. En fait, j'ai interrompu mes vacances parce que là, je réalisais que il y avait un danger là, tu sais, premièrement que je reste pris où j'étais. J'étais en croisière et j'ai quitté le navire en plein milieu parce que je voyais pas, j'étais inquiète de ne pas pouvoir revenir au travail. Alors je suis revenue le matin du 13, puis je me rappelle, j'ai atterri à 7h le matin à l'aéroport de Dorval, j'étais dans le taxi, puis j'avais ma première rencontre de gestion de crise avec mon équipe. Et là, ça commençait là à être annoncé que bon, les gens devaient rester chez eux, bon, etc., etc. Et là, ben ça c'était le vendredi et la semaine après, ben là tout était fermé, les magasins, il y avait plus personne dans les magasins de toute façon. Et là, nos employés en fait avaient peur. C'est une question, en fait, c'était comme si c'était la fin du monde. Hein? Si on se rappelle, là, il y a 2 ans, on avait tous peur. On savait pas à quoi s'attendre. Et puis bon, il y avait des cas, il y avait des morts, il y avait. Alors les employés, moi, si je recule encore à ce moment-là, ben c'est. Puis des employés qui me parlaient, qui m'interpellaient. J'ai fait des réunions en Teams avec des groupes. Et les gens me disaient, Catherine, il faut fermer. Ils étaient désespérés. Vraiment, là, c'est vraiment, ils étaient inquiets puis de dire, ben voir si on va rester, nous, ouverts dans le contexte. Et moi, je me rappelle avoir raccroché, tu sais, après le téléphone ou le Teams, là, après une journée, et me dire, oh, tu sais, j'entendais ce que mes employés disaient, puis en même temps, je me disais, ben voyons, il faut que je m'élève, là, j'entends la préoccupation des employés. Puis en fait, c'est là que je pense il y a eu un déclic. Ben premièrement, il faut sécuriser les employés. Et évidemment, il fallait tout faire en sorte pour que les employés soient sécurisés puis qu'ils viennent travailler puis qu'ils aient pas peur de venir travailler. Et j'ai même fait moi du terrain aussi parce que des fois travailler de son bureau, les gens peuvent dire ben on sait bien elle est dans son bureau puis elle parle pas à personne, elle est pas sur le terrain. Je suis allée sur le terrain, je suis allée donc à la rencontre des gens et on a mis des mesures en place. Puis en fait les employés puis les gens autour ont bien compris que ben que la SAQ reste ouverte, je pense que c'était une bonne chose. Oui, on peut parler de sécuriser les revenus de l'État, parce que c'est vrai. Mais, autre point important, on a un rôle sociétal, la SAQ. On est dans la vie des gens, on est dans leur quotidien. Hein? Quand on veut faire plaisir, on veut célébrer ou peu importe, on est triste, on veut se faire plaisir, ben souvent on va à la SAQ, on achète une bouteille, on se fait un bon repas, puis ça fait partie de nos mœurs, hein, les accords mets et vins. Et dans un contexte qu'on a vécu, ben je pense que ça a été sauveur pour beaucoup d'entre nous. Et je voulais aussi éviter comme toute la notion de casse. Vous savez, si on avait été fermé, ben les gens ils vont faire quoi? Ils vont briser les vitrines, ils vont rentrer, ils vont avoir de la. Je suis un peu extrême dans ce que je dis, mais il y avait quand même ce risque-là. Puis après, quand on regarde ce qui s'est passé ailleurs dans le monde, ben tous les commerces d'alcool qui ont été sous la juridiction gouvernementale ou pas sont restés ouverts, à part quelques exceptions. Donc, je pense qu'on a fait les bonnes choses, mais moi, tu sais, s'il y a une chose que, puis je le dis encore, c'est de sécuriser les employés. Puis ce qui me rend le plus fier, je l'ai dit à maintes reprises, mais je le redis encore, c'est qu'il n'y a pas eu de cas de contamination communautaire, ni dans nos entrepôts, ni dans les succursales, sauf une fois. Dans nos succursales, on a relâché à un moment donné dans un magasin, mais ça nous a servi de leçon pour dire non, on garde le 2 mètres, on garde le masque, et donc on a fait les bonnes choses. Puis encore aujourd'hui, même s'il y a eu beaucoup de cas, on a des employés qui ont attrapé la COVID, mais pas au travail. Alors ça, moi, c'est ce qui me rend le plus fier.
Puis, c'est intéressant ce que vous dites, donc sécuriser les employés, vous l'avez dit à maintes reprises dans l'entretien aujourd'hui, mais vous l'avez également dit dans le passé, donc c'est intéressant parce que vous disiez dans un entretien, il y a à peu près 2 ans de ça, que vous avez fait 5 grands apprentissages avec la COVID. Un de ces 5 apprentissages, c'est bien entendu sécuriser les employés. Pouvez-vous partager à notre audience aujourd'hui les 4 autres apprentissages que vous avez fait de cette crise?
Ben, en fait, au-delà, je vais parler des apprentissages que j'ai déjà nommés. C'est sûr que la communication, parler à nos employés, les écouter, c'est important. On le sait tous, mais des fois, on l'oublie. Alors ça, c'est un rappel que la communication est essentielle et leur parler souvent, leur expliquer, prendre le temps, écouter, entendre, écouter les suggestions aussi, parce que bien souvent, c'est nos employés qui ont les solutions. En fait, je dirais tout le temps. Au niveau du télétravail, personne pensait qu'on était capable de travailler en télétravail. Il y avait une inquiétude chez plusieurs gestionnaires, puis en fait, ben on a appris que 2 ans plus tard, on est capable de travailler en télétravail et on reviendra jamais à qui on était il y a 2 ans. Je pense qu'il faut apprendre de ça, puis il faut faire confiance à nos employés. Évidemment, tu sais, moi je pense beaucoup à l'agilité. Dans le fond, c'est ça, je l'ai pas nommé là au départ, mais je pense que l'agilité, le fait que, regarde, on s'est pris en main, on a changé des choses, on n'a pas hésité à faire les choses différemment, à même à dire, ben écoutez, on va fermer le dimanche temporairement parce que on veut donner un temps de répit à nos employés qui étaient restés au travail puis qui faisaient toutes les heures quasiment de la SAQ. Donc, beaucoup de résilience aussi de la part de nos gens, de dire, ben, on se lève les manches, puis jour après jour, puis, ah, ben, Catherine, tu sais, ça va mieux, on s'habitue, et d'être là avec la clientèle aussi, tu sais, la clientèle, comme nous, était, tu sais, vivait ses propres inquiétudes. Puis, à travers tout ça, je pense que ce qui est important aussi, c'est, je l'ai dit déjà, mais c'est de, quand tu gères une crise, il faut jamais que tu oublies qu'un jour tu vas sortir de la crise.
Bien sûr.
Et il faut que tu planifies l'avenir aussi. Puis des fois, c'est pas toujours facile parce que t'es dans l'immédiat, t'es dans, tu sais, éteindre les feux. Mais tu dois prévoir la suite, qu'est-ce qui va arriver après. Et ça, on le fait en équipe, on le fait avec le conseil d'administration. Oui, on a appris de la COVID parce que, bon, les ventes en ligne, on en a parlé un petit peu plus tôt. Oui, il y a eu une recrudescence de nos ventes en ligne et on s'est rendu compte que le plan qu'on avait de la chaîne d'approvisionnement, ben, il fallait le faire plus vite. Plutôt que tard, parce que on était à pleine capacité dans notre centre SAQ.com. Alors, on s'est pas empêché de se re-questionner sur les priorités qu'on avait identifiées, tout en gérant l'immédiat, parce que ça, c'est fondamental, mais garder aussi en tête l'avenir.
Ben c'est vrai que c'est important parce que finalement, tranquillement, on sent qu'on est en train de sortir de cette crise-là. Puis on en a parlé assez. Puis je pense que un point que j'aimerais amener à l'attention de notre audience aujourd'hui, Madame Dagenais, c'est que vous avez été la première femme en charge de la Société des alcools du Québec. Donc, encore une fois, pour une deuxième fois aujourd'hui, mes félicitations. Et on peut également voir que vous avez été nominée au prix des femmes d'affaires du Québec. Je serais curieux, Madame Dagenais, à quel point considérez-vous que vous avez la responsabilité, avec le rôle que vous avez aujourd'hui, de faire rayonner l'entrepreneuriat pour les femmes d'affaires du Québec, de faire rayonner le fait que de plus en plus, les femmes peuvent avoir des rôles importants dans des grosses entreprises comme la SAQ, là.
Ben pour moi, ça a toujours été important d'aider, d'appuyer les gens qui, tu sais, qui lèvent la main puis qui me demandent de l'aide. Que ça soit un homme ou une femme, de toute façon, ça me fait toujours plaisir. Moi, j'ai toujours pensé que on est notre propre limite. Hein? On va aller jusqu'où on veut aller par nos motivations. Il y a bien des facteurs, mais alors j'encourage n'importe qui a envie de se développer puis qui veut travailler avec moi, avoir mes conseils. Ben j'ai toujours eu l'oreille pour ça. Ça me fait toujours plaisir de le faire.
Puis, à quoi ressemble un peu l'avenir de la SAQ? Vous disiez, on doit planifier pour le futur. Est-ce que vous avez peut-être des nouveautés, un plan de match spécifique qui arrive pour 2022, pour 2023?
C'est certain que le plan de match qui nous occupe le plus à la SAQ, c'est tout le projet de transformation de la chaîne d'approvisionnement. C'est un gros projet d'entreprise. Alors ça, c'est amorcé. Ça va continuer dans les prochaines années. Il y aura plusieurs étapes à ce projet-là, bien entendu. Puis, tu sais, on a franchi le cap des 100 ans l'année dernière, la SAQ. Puis, notre volonté, c'est d'inspirer la fierté des Québécois. Vous savez, on a 100 ans, oui, mais la SAQ, ce qu'il faut retenir, c'est un fleuron québécois. C'est une entreprise 100% québécoise avec des gens d'ici, où tous les profits, en fait, retournent à l'État, sont réinvestis au Québec. Et ça, moi, ça me rend fière. Puis mon devoir, en fait, avec mon équipe, ben c'est de rendre fiers les consommateurs, les Québécois. Et pour ça, ben c'est de continuer à évoluer. On peut pas rester assis sur nos acquis. On doit continuer d'évoluer, de se transformer, d'être en avant, en fait, du client puis de ses attentes. Et ça me motive beaucoup.
Et Madame Dagenais, je terminerai avec des petites questions personnelles. J'aime toujours savoir ce que mes invités lisent. Êtes-vous, est-ce que vous aimez la lecture? Est-ce que ça fait partie de vos passe-temps?
Ben, en fait, je lis de temps en temps. Je lis au travail. Je lis parfois à la maison. Des fois, j'aime ça. Aller dehors puis jouer dehors, j'ai besoin de ça. Mais si vous me demandez, là, je suis en train de lire un livre qui est vraiment très très intéressant qui s'appelle Net Positive. dont l'auteur est l'ancien CEO de Unilever. Et dans un contexte de, tu sais, l'environnement, les ESG prennent de plus en plus de place, ben c'est comment, tu sais, puis en fait, c'est, je l'écris puis je prends des notes parce que c'est un livre qui me fait réfléchir sur, ben, tu sais, qu'est-ce qui fait que la SAQ a sa raison d'être, puis comment, tu sais, quelle est notre contribution? Oui, la contribution, remettre le dividende à l'État, là, sécuriser les revenus de l'État, c'est une contribution. Mais notre contribution sociétale, elle existe, et comment la mettre davantage de l'avant? Alors, c'est un livre qui me fait beaucoup réfléchir, puis qui est dans un bon timing, puisqu'on est en réflexion présentement pour notre prochain plan stratégique qui va débuter en 23, donc l'an prochain, pour 3 ans. Alors, ça arrive à point. Bon, on a parlé de la consigne, mais tout le dossier environnemental, ce qui se passe, c'est quoi notre rôle, notre responsabilité, puis quelle cible on va se donner pour, je dirais, contribuer au changement de société qu'on se doit tous de faire.
Mais je pense que c'est un questionnement que beaucoup de chefs d'entreprise ont présentement, et avec raison. On le voit de plus en plus que des entreprises avec uniquement une vision de profitabilité à tout prix, on dirait que ça a moins sa place de plus en plus. On doit avoir un impact plus grand que seulement un impact économique. Donc, je pense que votre réflexion vient à point. Beaucoup de gens se posent des questions à ce niveau-là présentement. Madame Dagenet, merci énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. Toujours intéressant de savoir un petit peu les coulisses d'une entreprise autant connue que la SAQ. Donc, je vous remercie énormément de votre temps. Vous nous avez donné des réponses assez intéressantes. Et bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. J'espère que l'épisode du jour vous aura permis d'en apprendre plus sur une des sociétés les plus présentes dans la vie des Québécois. Merci encore à l'équipe de la SAQ de m'avoir permis de faire ce podcast. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.